Curriculum Vitae.
Bonjour mesdames et messieurs, c'est Danny Benz au microphone. Je vous souhaite la bienvenue à Curriculum Vitae. Cette semaine, je reçois un homme qui cherche continuellement. Il cherche à approfondir ses connaissances sur la Bible et sa foi en Jésus. Il cherche à comprendre et à aider ceux et celles qui sont traités injustement. Il cultive la fraternité et le partage. Il a étudié la philosophie et la théologie très longtemps, mais il s'est aussi beaucoup porté en action, vers les ex-détenus, vers les robineux, comme on les appelait. C'est avec grand plaisir que je reçois Michel Quentin. Monsieur Quentin, bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Une vie bien riche et bien remplie qui a commencé à Québec en 1941. Dans quel quartier êtes-vous né, Monsieur Quentin?
Je suis né dans la paroisse Saint-Sauveur.
Saint-Sauveur. Oui. Donc, vous avez vécu, vous, votre jeunesse dans un quartier qui ressemblait à quoi à ce moment-là?
C'était un quartier populaire où il y avait beaucoup de travailleurs. Il y avait, entre autres, beaucoup d'usines qui fabriquaient des souliers. Donc, il y avait beaucoup de main-d'œuvre. Et c'est ça, c'est un quartier de travailleurs.
Et donc, vous avez vécu votre adolescence dans les années 50. Le monde était un petit peu en effervescence dans les années 50. Et les années après-guerre, il y avait du positivisme à quelque part. Puis vous avez été pensionnaire.
Oui, de 1954 à 1960.
Comment est-ce que vous avez vécu ça, le pensionnat?
Au début, c'était difficile. J'avais 13 ans. Ma mère voulait faire un prêtre avec moi. Comme c'était dans plusieurs familles à l'époque, là, j'étais le plus vieux, j'étais le seul garçon. Alors, depuis que j'étais petit, on me faisait répondre à la question « Qu'est-ce que tu vas faire plus tard? » Ben, je vais faire un prêtre comme mon oncle Maurice. Donc, c'était les Aublats qui étaient à la paroisse Saint-Sauveur. Il y en avait 17, 18, 19 là, pour desservir la paroisse à l'époque. Et c'est ça qui a fait que j'ai été à Chambly, au séminaire des Aublats. Mais vers l'âge de 17-18 ans, en belles lettres, là, j'ai réalisé que c'était pas vraiment mon choix, parce que j'avais jamais envisagé autre chose.
Oui.
Parce qu'on me faisait toujours répéter, ça avait été comme une espèce de lavage de cerveau. Alors j'ai décidé de pas continuer, parce que c'était pas vraiment mon choix. Et je suis venu compléter mes études classiques à l'Externat Saint-Jean-Eudes à Québec.
Mais puis là, pendant cette période-là, vous avez eu, comme tout le monde en avait quand on était pensionnaire, un directeur spirituel. J'aimerais bien que vous nous parliez de lui un petit peu.
Oui, c'était le père Bergeron. Pendant toutes les années où j'étais pensionnaire, c'est lui qui était mon directeur spirituel. Et au tout début, il m'avait dit, choisis une vertu théologale autant que possible qui va donner un ton à toute ta vie spirituelle pour la balance de tes jours. Alors, j'avais choisi la charité. Et progressivement, j'ai découvert que la charité, c'était l'amour. C'était une forme d'amour la plus élevée qu'il pouvait y avoir. Et l'amour, ben ça présuppose la liberté. Donc, ces deux valeurs-là, l'amour et la liberté, ont pris une grande importance dans ma vie.
Pour toi, liberté.
C'est presque un classique, ça, dans la chanson française, que cette interprétation de Nana Mouskouri, de oui. La Liberté, Michel Cantin. C'est bien sûr quelque chose qui vous voit droit au cœur, j'imagine.
Certainement.
Oui.
La liberté, c'est quelque chose de fragile, là. OK, même quand on discute, est-ce que l'homme est libre, est-ce qu'il est vraiment libre, ou il ne l'est pas, etc., il y a beaucoup de positions différentes. C'est pas toujours évident. On est beaucoup conditionné par notre subconscient, par ce qu'on a vécu, etc. Mais je pense que, foncièrement, nous sommes libres en dernière analyse, en dernier... La dernière décision, c'est une décision libre qu'on peut prendre. Ça suppose qu'on domine les forces qui nous conditionnent. C'est fragile, on le voit dans le monde entier, comment est-ce qu'on a de la difficulté à reconnaître la liberté des personnes, parce oui. que ça veut dire que les gens expriment ce qu'ils pensent vraiment, ils sont capables de critiquer, ils sont capables de tout ça, et ça dérange.
Oui.
Alors,
effectivement, quand on dit que notre liberté s'arrête là où commence celle des autres, voilà. c'est tout un exercice. On vous retrouve, Michel Cantin, en 1962, alors que on est en plein Concile Vatican II à Rome. C'est formidable, ça. Comment est-ce que vous avez vécu ça, tout jeune homme, là, vous débarquez en Europe? Parlez-nous des souvenirs que vous avez de ça, de cette prise de contact avec l'Europe.
C'est ça. En 62, je termine mes études classiques. Je choisis la philosophie parce que les deux dernières années du cours classique, on étudie beaucoup la philosophie, ça m'avait intéressé, je voulais approfondir. Alors, je vais d'abord à Laval prendre un baccalauréat en philosophie, ça dure un an, et je décide ensuite d'aller prendre ma licence en philosophie à Rome. Alors, en 63, à l'automne 63, je pars pour Rome. C'est sûr que je ne suis pas très très vieux, là. J'ai 22 ans, et... C'est le choc de la culture européenne, c'est le choc aussi de me retrouver au Vatican, de me retrouver à Rome. À l'époque, pour les catholiques, Rome, c'était... Quand Rome parlait, c'était quasiment comme si c'était le bon Dieu qui parlait, là. Alors, j'arrive là, et dès l'automne, c'est la deuxième session du Concile. Je me souviens, la première fois que je suis allé sur la place Saint-Pierre, on promenait le pape sur la sedia gestatoria à l'époque, là.
Oui.
Il était assis sur une chaise et il était porté par 6 ou 8 porteurs, là, puis on le promenait à travers la foule. J'en étais estomaqué, je me disais, ça m'a vraiment comme choqué, et je me disais, Jésus de Nazareth, n'aurait jamais été dans un accoutrement pareil.
Non, là, c'est ça.
À l'époque. En plus, pendant le Concile du Vatican, il y avait une espèce de jeu de coulisses qui se faisait entre les conservateurs et les progressistes. Alors, il y avait, chacun essayait d'influencer les décisions qui se prenaient au Concile. C'était... Là, j'ai découvert que l'Église était très humaine et que souvent, c'était le rapport de force qui faisait que c'était telle chose plutôt que telle autre. À travers tout ça, il y avait l'inspiration de l'esprit, mais il fallait le trouver, là. Tout n'était pas inspiration de l'esprit, là.
Non.
Alors, je me souviens d'une conférence où j'avais été. C'était Joseph Folliet. C'est un économiste à l'époque de réputation internationale. Il était français. Et il avait donné une conférence en disant que la science économique, tant qu'elle ne réintégrait pas le concept d'esprit de pauvreté, n'arriverait pas à atteindre ses objectifs. Parce qu'on oublie souvent l'objectif de la science économique, c'est de gérer, d'avoir une bonne administration de la maison commune, donc d'assurer une redistribution des richesses qui soit la meilleure possible. Et lui disait que tant que on ne retrouverait pas l'esprit de pauvreté, on n'arriverait pas à atteindre cet objectif-là. Et je pense que la suite de l'histoire a montré qu'il avait raison, parce que les inégalités sont de plus en plus effarantes. Alors que quelqu'un utilise l'Évangile pour, en application dans un domaine aussi profane que la science économique, ça m'avait intéressé. Ça m'avait dit, bon, c'est pas, la religion, c'est pas juste des rituels, des rites, des sacrements, etc. Ça se vit dans le profane, dans le concret.
Oui. On en revient à la charité.
Oui.
Effectivement. Et puis là, vous avez donc terminé ces études-là, et de 64 à 72, on vous retrouve comme professeur de philosophie dans les écoles normales. Pour ceux et celles qui nous écoutent, expliquez-nous déjà qu'est-ce que c'était qu'une école normale.
Les écoles normales, à l'époque, c'était l'endroit où on formait les professeurs pour le cours élémentaire et le cours secondaire.
Ce qui aujourd'hui serait la faculté de l'éducation au niveau universitaire.
En 72, les écoles ont fermé parce qu'on avait décidé que dorénavant, la formation se donnerait à l'université.
Alors, vous avez enseigné pendant plusieurs années quand même. C'était qui vos étudiants?
J'ai enseigné 2 ans. Quand je suis revenu de Rome, j'ai été engagé par l'histoire de la Congrégation Notre-Dame à l'École normale Notre-Dame de Québec, où est construit l'hôtel pur maintenant, là. C'était juste en avant de l'église Saint-Roch. C'était uniquement des filles. Quand la supérieure m'a engagé, elle dit « peut-être un inconvénient, vous avez quasiment l'âge de nos étudiants. » J'ai pas répondu, j'ai pas osé glisser. Mais il y avait des filles là-dedans avec qui j'avais fait de l'Action catholique. On se tutoyait, on était copains, mais là, il fallait qu'ils me disent « monsieur » et qu'on se vous voit. Alors, c'était des filles. J'enseignais 2 ans. Après 2 ans, à l'époque, il y avait un manuel, il fallait suivre le manuel. Alors, on n'avait pas beaucoup de latitude, le contenu, c'était ce qu'il y avait dans le manuel. Alors, après avoir répété 2 ans, j'ai dû répéter une 3e année, ça m'intéressait pas. Alors, je vais en profiter, je vais retourner aux études. Et là, j'ai hésité entre aller chercher un doctorat en philosophie ou aller en théologie. Parce que la religion qu'on m'avait enseignée ne me satisfaisait pas, je me posais des questions. Et je me disais, si j'attends après les sermons du dimanche, ça va peut-être prendre du temps avant que j'aie des réponses. Alors, j'ai décidé d'essayer d'aller chercher moi-même les réponses. Je suis entré comme laïc à la faculté de théologie de l'Université Laval.
Est-ce que vous étiez beaucoup à ce moment-là, des laïcs?
Non, on était 3. Il y avait une religieuse des Sœurs de Jésus-Marie. Il y avait une femme qui sortait d'un cloître à ce moment-là. Il y avait moi. Les autres étaient tous des grands séminaristes ou des membres de communautés religieuses. Et quand il y avait des cours, c'était drôle parce que au cours de droit canon, on enseigne que la plus grande sanction que l'Église peut prendre par rapport aux clercs, c'est de les réduire à l'état laïque. Moi, je me disais, ils pourront pas me réduire, je suis déjà réduit.
Vous y allez avec un petit grain de sel puis un brin d'humour.
Oui.
Elle n'est pas jolie, la chanson que je chante, comme un oiseau meurtri, elle a l'aile pendante. Pas si j'avais le goût, je créerais une ronde. Mais comme un vieux caillou, j'attends la fin du monde. Y a l'ouvrier qui meurt un soir de grande peine. Y a l'homme sans honneur qui n'a plus que sa haine. Y a le garçon trahi par la fille qu'il aime. Y a cette mélodie de la douleur humaine. Y a aussi le soleil qui joue dessus les pêches. Mais y a celle qui veille sur un malade rêche. Y a les bambins heureux qui court au bord du lac. Mais il y a les deux gros yeux de la faucheuse au sac. Tout de même, il y a le bon Dieu qui entend nos misères, qui de son livre bleu rejette l'éphémère. Que vienne le matin, oh, comme un fleuve bleu. tous les malheureux se presseront la main.
C'est une chanson de Félix Leclerc qui a peut-être pas tourné beaucoup à la radio, mais qui est importante pour vous, Michel Quentin.
Oui, quand je suis revenu à Québec, je me suis impliqué dans un mouvement d'action catholique, la jeunesse à Quimper. Alors, à l'époque, c'était des jeunes qui s'impliquaient pour d'abord aider les alcooliques à arrêter de boire puis à se réhabiliter. Et pour cela, ben, on s'abstenait de consommation alcoolique pour aider ceux qui ne pouvaient pas en prendre, être capable d'aller dans des soirées, de s'amuser, etc., sans alcool. Alors, on essayait, on visitait des alcooliques. Le père Villeneuve avait commencé les maisons Don Rémy dans son ancien chalet à Saint-Louis-de-Pintante, et on allait animer des soirées là, et on se promenait un peu dans le diocèse. Il y avait des équipes diocésaines à Tedford, à différents endroits, et on allait les animer, puis tout ça. Alors, ça m'a amené à entrer assez rapidement en contact avec des personnes qui avaient souffert, qui avaient eu des problèmes, qui avaient vécu des échecs dans leur vie. Cette chanson-là, ce que je trouve admirable, c'est que elle nous dit oui, elle reconnaît tout le mal qui existe dans notre société, dans le monde, mais en même temps, elle dit faut pas regarder seulement ça. Il y a du mal, oui, mais il y a du beau aussi. Alors, il faut voir les deux pour garder un certain équilibre. Si on ne voit que le mal, ça fait problème. Et ça se termine en reconnaissant que le bon Dieu, lui, avec tout ça, il réussit probablement à faire quelque chose de formidable. On va voir ça un jour.
On a suivi votre parcours jusqu'à votre retour aux études en théologie, mais je voudrais qu'on fasse un petit saut arrière parce que vous avez été à un moment donné à l'Office des communications sociales du diocèse de Québec et vous en étiez le premier secrétaire exécutif. Ça faisait quoi cet office-là?
C'est le concile qui avait préconisé que dans tous les diocèses, il y ait un Office des communications sociales pour s'occuper de la présence de l'Église dans les médias sociaux, dans la radio, à la télévision, etc. Alors, en 1965, ça a été créé dans le diocèse de Québec. C'était Jean Pelletier qui était le président, et c'était Monseigneur Lavoie qui était le directeur. On n'avait pas précisé les fonctions du président et du directeur. Ça faisait un organisme avec deux têtes, si je peux dire. C'est Monseigneur Lavoie qui me connaissait, qui, en 65, qui m'a demandé si j'accepterais pas, à temps partiel, c'était deux jours semaine, l'équivalent de deux jours semaine à peu près, d'être secrétaire exécutif. Et là, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué, parce que la première commande qu'on a eue du diocèse, ça a été de revoir l'émission du chapelet en famille, à CHRC, au poste de radio
oui.
CHRC,
oui,
de
oui.
7h à 7h15,
oui.
L'évêque disait le chapelet en famille. Alors, on nous a donné la commande de repenser cette émission-là. Alors, il y avait sur le comité de l'office des personnes qui avaient des compétences en radiodiffusion, etc. Alors, on conçoit deux émissions. On réduit le chapelet de 5 dizaines à 3 dizaines pour permettre à l'évêque de dialoguer davantage avec ses fidèles là, à l'occasion de cette émission-là. Et on prévoit des émissions préenregistrées pour les jours où l'évêque serait absent ou en voyage, ou etc. Et on envoie ces deux émissions-là. Là, pour donner un exemple, on envoie ça à l'archevêché. Le temps passe, on n'a pas de réponse. Temps passe, pas de réponse. Alors, Jean Pelletier me fait venir, il dit, Michel, il dit, va donc voir, là, au diocèse, là, il y a sûrement quelque chose qui bloque, là, puis ils sont pas capables de nous le dire, ou toute l'affaire. Alors, je me rends à l'archevêché, puis je rencontre un chanoine qui était même membre de l'Office des communications sociales. Et là, je lui dis, Monsieur Pelletier, voudrait avoir une réponse, là, on vous a tout ça. Et là, il finit par me dire que 3 dizaines, c'est pas un chapelet. Canoniquement parlant, un chapelet, c'est 5 dizaines. Donc, réduire ça à 3 dizaines, ça marche pas. Et en plus, quand l'émission est préenregistrée, il n'y a pas les indulgences. Là, je suis tombé en bas de ma chaise. J'ai dit, il n'y a rien à faire avec ce monde-là. Et peu de temps après, j'ai démissionné de l'office, là, en me disant, je remettrai jamais les pieds dans ça.
Une expérience de vie. Oui. Une expérience. Parlant d'expérience, au moment où vous étiez encore professeur de philosophie dans les écoles normales, à un moment donné, il vous est permis d'aller en République dominicaine. Et ça, c'était un stage d'observation, de sensibilisation à ce qui se passait, à ce qu'on appelait à ce moment-là le tiers-monde. Qu'est-ce qui vous y a poussé?
Écoutez, moi, c'était pas d'abord, on n'avait pas besoin de permission, là, c'était pas dans le cadre des études du tout. Moi, à l'été 70, je décide d'aller en République dominicaine avec la source. C'était Jacques Giroux, qui était un missionnaire de Saint-Cœur, qui à Beauport, qui avait fondé ça. C'était un mouvement où il y avait beaucoup de jeunes, etc. Il organisait des stages de sensibilisation au tiers-monde. Alors, à l'été 70, je décide d'aller faire un stage. Je vais en République dominicaine. C'était pas un pays touristique à l'époque,
non,
là, du tout.
Non.
C'est, qu'est-ce ça que vous y avez vu par la suite?
Mais... Qu'est-ce que vous y avez vu à ce moment-là, en République?
Ce qui m'a frappé et ce qui frappe tous ceux qui vont, je pense, faire des stages semblables, c'est que les gens, par rapport à nous, ne vivent pas du tout dans l'abondance, là. Vivent dans une pauvreté matérielle assez importante. Mais ils ont le sourire, ils sont capables de fêter, ils sont capables de chanter, ils donnent l'impression d'être heureux, alors que nous, si on avait seulement les moyens matériels qu'ils ont, on a l'impression qu'on serait très malheureux. Mais eux, ils sont heureux. Alors ça, c'est frappant de voir que le matériel qu'on possède, c'est pas ça qui nous rend vraiment heureux. C'est dans ce monde-là, et quand j'ai été avec les Robineaux, c'était la même chose. Quand on est dans une situation de pauvreté matérielle, il y a une espèce de solidarité, il y a des relations tout à fait spéciales qui s'établissent entre les gens et que l'on perd très souvent quand chacun devient propriétaire de sa tondeuse, propriétaire de ça. On devient indépendant d'un peu tout le monde. On est capable de se débrouiller tout seul. Alors les relations entre les personnes changent beaucoup. Et dans le tiers-monde, eh bien, c'est ça qui était remarquable. Je me souviens, une femme, mettons, meurt, puis elle a 2 ou 3 enfants. Ben, la voisine va les ramasser, puis elle va les continuer à les élever, là. C'est vraiment, même si elle a de la difficulté à nourrir déjà ses enfants, elle va s'occuper des enfants de la voisine.
Donc, vous y êtes allé une première fois vous-même,
oui.
Mais vous y êtes retourné avec des étudiants de l'école normale.
Quand je suis revenu à l'automne, là, les étudiants me demandent qu'est-ce que j'avais fait cet été. Alors je leur raconte ce que j'avais fait et ils me disent ben ça serait le fun qu'on vive ça. Ben j'ai dit on a juste à s'organiser, c'est possible. Là, ils le croyaient plus ou moins. On a commencé, puis là, il y avait une année de formation avant d'aller faire le stage. Et on a commencé, j'ai dit, ceux qui sont intéressés, on commence tout de suite. Mais aller jusqu'aux fêtes, ils n'y croyaient pas vraiment. Ils ont commencé à y croire après les fêtes, là, que vraiment on pourrait aller en République dominicaine. Alors, on était 19 à retourner faire un stage en République dominicaine.
Et en terminant, qu'est-ce que vous vous souvenez qu'ils ont retenu, eux, de ce séjour-là, les étudiants?
Oh, je pense qu'ils ont retenu la même chose que moi, là. Je veux dire, ils ont été frappés par le côté humain, joyeux, parce que c'était des jeunes. Alors, ils ont noué des relations avec d'autres jeunes et ils ont partagé beaucoup. C'est ça. Je pense qu'ils ont retenu à peu près la même chose que moi, là. Ils ont été frappés par le bonheur que ces gens-là dégageaient dans leur vie.
Finalement, ce sont eux qui vous ont appris quelque chose, les gens de la République dominicaine.
Oui, et les Robineaux, le plus tard.
On en reviendra sur ce sujet-là un peu plus loin. Je vous remercie déjà de votre présence aujourd'hui, Michel Quentin. Je remercie aussi Berthold Bernier qui est à la réalisation technique de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine.
Vous venez d'entendre Curriculum Vitae.